Chapitre 24e. En arrivant en Belgique, je commençais à regretter d'avoir quitté mes camarades. Maintenant que j'agissais librement, que je courais, du moins me l'imaginais-je, beaucoup moins de risques, le fait de n'avoir personne à qui parler me pesait affreusement. Quand, après une nuit de marche, je me cachais dans un réduit quelconque, j'étais pris soudain de désespoir. Je me disais que ce n'était pas normal, que ce n'était tout de même pas la compagnie d'un Robert Jacques ou d'un Labussière qui eût changé quoi que ce fût à mon état d'âme. Et pourtant, j'eusse donné tout ce que je possédais. Il est vrai que ce n'était pas grand-chose, pour que le plus insignifiant de mes camarades se trouvât auprès de moi. Jamais je n'aurais soupçonné que l'obligation de garder le silence fût si pénible. J'étais tellement désemparé que je résolus de demander secours au premier venu. Je n'en pouvais plus. C'était la solitude plus que le froid et la faim qui me mettaient dans cet état. Je me disais qu'au point où j'en étais, le risque était plus grand à ne rien faire qu'à courir la chance de frapper à la porte de gens que je ne connaissais pas. Je m'approchais d'une maison un peu à l'écart. De cette façon, en admettant que je tombasse sur des nazis, il m'était plus facile de fuir. La maison, d'ailleurs, m'inspirait confiance, car elle était petite et propre. Je passais trois ou quatre fois devant. Au dernier moment, je n'osais frapper et je continuais ma route. Je ne savais plus où j'étais, ni même si, sans m'en rendre compte, je ne revenais pas en arrière. Le ciel était noir, les lumières étaient toutes voilées, et ce qui en était visible dans les interstices l'était à l'insu des propriétaires, ce qui ajoutait à ma sensation d'isolement. J'entendais des cris de soldats ivres, parfois un remue-ménage à la porte d'une maison. Des voix retentissaient, un carré de lumière se posait sur la chaussée, puis tout redevenait obscur et silencieux. Je crois qu'il eût été impossible d'éprouver un sentiment de plus profonde détresse. Dans la vie normale, on ne peut imaginer quelque chose de pire que d'être poursuivi la nuit par une nuit d'hiver dans les rues d'une ville qu'on ne connaît pas. Où aller? Que faire? Quand on sort d'un lieu illuminé, on ne voit rien durant un instant. Ce soir-là, cet instant se prolongeait indéfiniment. Finalement, je frappai à une porte, au hasard, puis je reculai de deux pas pour que la personne qui m'ouvrirait fût moins effrayée. On ne vint pas. Je frappai encore une fois, puis une autre. On ne vint pas davantage. Cela me contraria. Bien que je ne connusse pas les propriétaires, il me semblait à présent que là seulement je trouverais l'aide que je cherchais. Je frappai de nouveau, puis je tâtonnai pour chercher la sonnette. Je sonnai. Cette fois, j'entendis marcher. La porte s'ouvrit. Je n'avais pas préparé ce que je devais dire. Tout dépendait du genre de personne à qui j'allais avoir affaire. C'était un homme de taille moyenne. Je m'étais imaginé que j'allais improviser. Brusquement, tout ce qui aurait pu me guider chez cet homme se trouva environné de brouillard. Il avait beau se trouver en pleine lumière, et moi dans l'obscurité, je ne le voyais pas. Et il me voyait. Qu'est-ce que vous voulez ? Me demanda-t-il. Je compris tout à coup que je n'étais plus maître de ma destinée. C'était fini. Sans m'en rendre compte, j'avais fait ce pas en avant qui me mettait à la discrétion de mes semblables. Il existe, avant le danger qui va s'abattre sur nous, un bref moment où tous les raisonnements et toutes les précautions ne comptent plus. Je vivais ce moment. Dans une seconde, j'allais être sauvé ou prisonnier. Il ne me restait à présent qu'à me fier à mon étoile. Je suis un évadé français. Je vous demande l'hospitalité, dis-je en entendant ma voix comme si je parlais devant une salle entière. Un instant s'écoula, durant lequel j'eusse été même incapable de fuir si cet homme avait appelé la police. Puis tout à coup, avant qu'il m'eût répondu, j'eus le sentiment que j'étais sauvé. Vous êtes un évadé, dit-il. Oui, répondis-je. Il faut que vous me permettiez de passer la nuit ici. Je ne peux plus continuer. Mais qui êtes-vous ? Je suis un évadé français, répétai-je. Maintenant, je voyais l'homme en pleine lumière, et je voyais qu'il était inoffensif, aussi clairement que je voyais qu'il n'avait pas de cheveux. Il referma la porte derrière moi. Il avait beau ne pas être rasé. Sa chemise de nuit à broderie rouge avait beau être fripée, recroquevillée au col. Il se dégageait de sa personne cette sorte de propreté familiale qu'ont les gens qui ne s'occupent pas de leur toilette, mais sur qui d'autres veillent. La chaleur de la maison, Les aises lui donnaient un air reposé, et je sentis une odeur de lait brûlé qui me parut délicieuse. Il me fit asseoir près d'un fourneau dont les cuivres brillaient, puis il appela sa femme. C'étaient de braves gens. Je sentais chez eux cette espèce de peur de ne pas être assez bon, mêlée de méfiance, ce continuel examen de conscience, se faisant en présence de ceux-mêmes qu'il faut secourir. Je sentais qu'il n'aurait jamais le courage de me mettre dehors, et qu'en même temps, ils voyaient passer rapidement devant leurs yeux toutes les conséquences possibles de leur bonté. On me donna à manger, pendant que je soufflais indéfiniment sur ma cuillère, car j'avais perdu l'habitude de manger chaud. La femme monta préparer la chambre. C'était la première fois depuis des mois que j'étais assis dans un intérieur, sur une chaise solide, qu'on me servait, et j'en baissais les yeux de bonheur. Le feu, les objets de toutes sortes destinés à des usages familiaux, me faisaient entrevoir la vie que j'avais perdue et que je commençais à retrouver. C'était enfantin, mais les dessins qui m'apparurent dans mon assiette lorsque j'eus terminé ma soupe, la petite guirlande en haut de la fourchette, les facettes du verre, les initiales de la serviette, tout cela me donna une sensation de raffinement inouï. Peu après, l'homme me conduisit dans une chambre du premier étage. Une bûche brûlait dans une petite cheminée de marbre noir. Il en ajouta une autre devant moi. Une tenture cachait la fenêtre. Le lit avait été ouvert. Sur la table de toilette se trouvaient des serviettes. Dès que je fus seul, je m'assis dans le fauteuil. Il me manquait juste de quoi fumer pour être parfaitement heureux. Je pensais une seconde aller demander une cigarette à mon hôte. Il avait tant fait pour moi qu'il eût trouvé cela naturel, mais c'eût été manqué de tact. En m'éveillant le lendemain, je réfléchis à ma situation. Jusqu'à présent, je n'avais songé qu'à fuir, c'est-à-dire à m'éloigner toujours du camp. Je n'étais jamais resté plus d'une nuit au même endroit, comme si, plus vite je serais arrivé à Paris, plus tôt je serais à l'abri. Il m'apparaissait maintenant que j'avais tout mon temps. Ce qu'il me fallait, ce n'était pas gagner un point fixé d'avance, mais trouver un lieu sûr, quel qu'il fût. Et cette maison, avec ses gens si gentils, était peut-être ce lieu. À 8 heures, on frappa à ma porte. C'était la première fois que j'entendais frapper à la porte d'une chambre que j'occupais. Tout était gris. Le feu était éteint. La femme alla ouvrir la fenêtre. Cela me toucha beaucoup qu'une femme entrât si librement dans une chambre où j'étais couché comme si j'étais un enfant. Elle m'annonça que le petit déjeuner allait être servi. Je m'habillai à la hâte et je descendis à la cuisine. Le mari était déjà là. Il était assis devant une feuille de papier et un encrier. Il me fit savoir tout de suite qu'il allait m'envoyer à son cousin, 3 kilomètres plus loin, et qu'ainsi je me rapprocherais de Bruxelles. Cette nouvelle me causa une déception. Pourtant, rien n'était plus naturel. Il se mit à écrire. De temps en temps, il me posait une question. Je sentis que depuis qu'il écrivait, quelque chose de beaucoup plus sérieux s'était établi entre nous. « Vous n'avez pas un papier ?» me demanda-t-il. « Je n'ai rien, » répondis-je. « Cela n'a pas d'importance. » Il était perplexe. Je devinais qu'il lui était tout à fait égal d'avoir des ennuis personnellement, qu'il voyait les choses de haut, mais que pour rien au monde, il n'eût voulu encourir un reproche du cousin à qui il me recommandait. Lorsqu'il eut terminé, il resta un long moment la plume en suspens, comme s'il craignait l'irréparable. Quand il me remit la lettre, je le remerciai longuement, mais j'étais un peu déçu. Lorsque nous demandons l'appui de quelqu'un, alors que nous sommes dans une situation intéressant à la société entière, nous avons l'impression que chaque individu est insuffisant et fait tellement peu de choses à côté de ce que la société ferait s'il savait où nous trouver. J'arrivai chez ce parent le lendemain, 4 janvier, à 4 heures. Il faisait presque nuit. La neige recommençait à tomber. Je m'étais dit que ce parent, dès qu'il aurait lu la lettre de son cousin, m'accueillerait presque comme un membre de la famille. Mais au moment où je frappais à la porte, il m'apparut que j'arrivais à l'improviste, que la lettre ne servirait pas à grand-chose, et que l'accueil qu'on me ferait dépendrait surtout de ce que j'allais dire et de l'impression que je donnerais. Une vieille femme entr'ouvrit la porte avec méfiance. « Je viens de la part de vos cousins, » dis-je. « Quels cousins ? Ceux de Maline. » Je craignais que ce renseignement ne fût insuffisant. J'étais glacé. Je ne sais pourquoi. J'étais incapable de fournir d'autres précisions. Je me souvenais pourtant de ce qu'on m'avait dit avant de quitter Malines, et je sentais que cela n'avait plus aucune valeur. Il aurait fallu que je recommençasse une grande scène comme la veille. C'était insensé de ma part de m'être imaginé que je pouvais compter indéfiniment sur l'appui de gens qui ne me connaissaient même pas. Je montrai ma lettre. La vieille femme la lut, mais parut ne pas comprendre ce qu'elle contenait. Je suis un évadé. Cette révélation ne produisit aucun effet. Et votre cousin m'a dit que vous me logeriez pour la nuit. Il vous a dit cela ? Fit un vieil homme qui marchait avec une canne. Vous êtes bien son cousin ? Parfaitement. Le vieil homme haussa les épaules.